Chapitre 10. Durant cette soirée de juin où M. Fairbrother apprit qu'on lui destinait la cure de Lawick, la joie régna dans le salon à l'ancienne mode du presbytère, et les portraits même des graves légistes semblaient comme réjouis dans leur cadre. La mère du vicaire laissa ce soir-là sans y toucher son thé et sa rôtie. Elle était assise, gracieuse, et un peu affectée dans sa grâce comme à son ordinaire, ne laissant voir son émotion que par cet éclat sur les joues et ce feu dans les yeux qui donnent à une femme âgée une identité momentanée et frappante avec la jeune fille d'autrefois. Elle dit enfin d'un air décidé « Ma plus grande satisfaction, Camden, c'est de penser que vous l'avez mérité. » C'est après avoir reçu une faveur, ma mère, qu'on doit encore s'efforcer de la mériter, répliqua le fils, débordant de joie et ne cherchant pas à le dissimuler. Le bonheur répandu sur son visage semblait indiquer assez d'énergie et de force active, non seulement pour briller au dehors, mais pour éclairer au dedans de lui-même une sérieuse vision. On croyait voir des pensées aussi bien que de la joie dans son regard. Maintenant, tante, poursuivit-il en se frottant les mains et en regardant Miss Noble, qui faisait entendre de doux petits bruits de castor, il y aura toujours du sucre candi sur la table, pour que vous puissiez en dérober et emporter aux enfants. Et vous aurez en quantité des bas neufs à distribuer, et vous repriserez les vôtres d'autant plus. » Miss Noble fit à son neveu un petit signe de tête, avec un rire soumis à demi effrayé, songeant qu'elle avait déjà glissé dans son panier un morceau de sucre de plus en l'honneur de la nomination. « Quant à vous, Winnie, continua le vicaire, il ne sera pas difficile maintenant de vous marier à quelque célibataire de Lawick, Monsieur Salomon Featherstone, par exemple, dès que je m'apercevrai que vous êtes éprise de lui. » Miss Winifred, qui n'avait cessé de contempler son frère et qui pleurait à chaudes larmes, ce qui était sa manière de se réjouir, sourit à travers ses pleurs, disant « Il faut que vous me donniez l'exemple, Cam. Il faudrait vous marier maintenant. » « De tout mon cœur. Mais qui est-ce qui peut bien vouloir de moi? Je suis un vieux garçon râpé. Qu'en dites-vous, ma mère ?»« Vous êtes un bel homme, Camden. » « Quoique vous n'ayez pas la belle prestance de votre père, » dit la vieille dame. « Je voudrais vous voir épouser Miss Garth, frère, » ajouta Miss Winifred, « comme ce serait charmant de la voir au milieu de nous à Lawick. » Charmant, en vérité, comme si on n'avait qu'à choisir parmi les jeunes femmes attachées aux poteaux comme des volailles au marché, et comme si je n'avais qu'à me présenter pour être accepté de qui que ce soit, » dit le vicaire, ne se souciant pas de préciser. « Nous ne voulons pas dire de qui que ce soit, » insista Miss Winifred. « Mais vous aimeriez mieux que ce fût Miss Garth, mère, n'est-ce pas ?»« Le choix de mon fils sera le mien, » dit Mrs. Fairbrother, avec une prudence majestueuse, « et une épouse serait ici la très bienvenue, Camden. Il faudra que vous fassiez votre whist chez vous, quand nous serons à Lawick, et Harriet Noble n'a jamais été une joueuse de whist. » Mrs. Fairbrother appelait toujours de ce nom magnifique sa vieille et mince petite sœur. Je me passerai de whist maintenant, ma mère. Pourquoi cela, Camden? De mon temps, on considérait le whist comme un passe-temps fort convenable pour un bon ecclésiastique, dit Mrs. Fairbrother, ignorante de ce que le jeu représentait pour son fils, et parlant d'un ton un peu tranchant, comme s'il s'agissait de quelque encouragement donné aux nouvelles doctrines. J'aurais trop à faire pour songer au whist, avec deux paroisses à administrer, dit le vicaire, préférant ne pas discuter les vertus du jeu. Précédemment déjà, il avait dit à Dorothée, « Je ne me crois pas tenu de renoncer à Saint-Botolph. Ce sera assez protesté contre la pluralité des fonctions qu'on veut réformer si je laisse à un autre la plus grande partie du revenu. La chose importante n'est pas de renoncer au pouvoir, mais d'en bien user. » J'y ai songé aussi, dit Dorothée. Tant qu'il ne s'agit que de soi-même, je crois qu'il serait plus facile de renoncer au pouvoir et à l'argent que de les garder et de s'en bien servir. Ce patronage peut sembler assez mal placé entre mes mains, et pourtant je sentais que je ne devais pas le laisser aller à d'autres. Et quant à moi, je serais tenu de faire en sorte que vous n'ayez pas à regretter d'avoir usé de votre droit, répondit le vicaire. Il avait une de ces natures où la conscience a besoin pour mieux agir, que le joug de la vie cesse de les écorcher. Il ne fit pas étalage d'humilité, mais au fond de son cœur, il se sentait honteux d'avoir montré les faiblesses dont bien d'autres étaient restés purs, qui pourtant n'obtenaient point de bénéfices. « J'ai toujours souhaité d'être autre chose que clergéman, » dit le vicaire à Lydgate. « Mais peut-être, après tout, vaut-il mieux que je m'efforce de faire de moi le meilleur clergéman possible. C'est en se mettant à ce point de vue-là, voyez-vous, que les difficultés paraissent très simplifiées, » conclut-il en souriant. Sa part de devoir paraîtrait maintenant toute facile au vicaire. Mais le devoir a pour se manifester des occasions imprévues, comme par exemple un ami un peu ennuyeux, que nous avons aimablement invité à venir nous voir et qui se casse la jambe sous notre toit. Une semaine plus tard à peine, le devoir se présenta chez lui dans la personne de Fred Vincey, revenu d'Omnibus Collège, avec ses grades de bachelier. « Je suis confus de vous déranger, monsieur Fairbrother, » dit Fred, dont le doux et frais visage semblait de bon augure. « Mais vous êtes le seul ami que je puisse consulter. Une fois déjà, je vous ai offert mon cœur, et vous avez été si bon que je ne puis m'empêcher de recourir encore à vous. Asseyez-vous, Fred. Je suis tout disposé à vous entendre et à faire pour vous tout ce que je pourrai, » dit le vicaire, en continuant de travailler à l'emballage de quelques petits objets pour le déménagement prochain. Je voulais vous dire, Fred hésita un moment, puis continua tout d'un trait, je pourrais maintenant entrer dans l'église, et vraiment j'ai beau regarder autour de moi, je ne vois rien d'autre à faire. Je n'aime pas l'église, mais je sais que ce serait très dur de le confesser à mon père, après tout ce qu'il a dépensé pour m'y préparer. Fred s'arrêta encore, puis répéta, et je ne vois rien d'autre à faire. J'en ai parlé à votre père, Fred, mais je n'ai pas gagné grand-chose avec lui. Il a prétendu qu'il était trop tard. Mais voilà déjà un pont de franchi. Quels sont vos autres soucis? Simplement que je n'y ai aucune inclination. Je n'aime pas la théologie, ni les prêches, ni me sentir tenu d'avoir l'air grave. J'aime à me promener à cheval dans la campagne comme les autres. Je ne veux pas dire que je voudrais devenir un mauvais sujet, en aucune façon. Mais je n'ai aucun goût pour le genre de choses qu'on attend d'un clergéman. Et pourtant, que puis-je faire sans cela? Mon père ne peut me fournir un capital, sans quoi j'aurais pu entrer dans l'agriculture. Et il n'a pas de place pour moi dans son commerce. Je ne peux pas non plus, bien entendu, me mettre à étudier le droit ou la médecine maintenant, puisque mon père prétend que je gagne quelque chose. C'est bel et bien de dire que je fais mal d'entrer dans l'église, mais ceux qui me tiennent ce langage feraient aussi bien de m'envoyer vivre dans les bois. La voix de Fred avait pris un ton de reproche grondeur, et M. Fairbrother eût été tenté de sourire s'il n'avait eu l'esprit trop occupé à en imaginer plus que n'en avait dit Fred. « Avez-vous quelques difficultés à propos des doctrines, à propos des articles ? » demanda-t-il, faisant effort pour ne considérer uniquement dans la question que l'intérêt de Fred. « Non, je suppose que les articles sont justes. Je n'aurai pas d'argument pour les réfuter, puisque des hommes bien meilleurs et plus instruits que moi les acceptent. Je crois qu'il serait assez ridicule de ma part de montrer de semblables scrupules, comme si je pouvais en être juge. Je puis donc supposer que vous pensiez être à même de faire un bon petit prêtre de campagne, sans être d'ailleurs un fameux théologien. Sans doute, s'il faut que je devienne clergéman, j'essaierai de faire mon devoir, tout en ne l'aimant guère. Trouvez-vous qu'on puisse m'en blâmer? D'entrer dans l'église dans de telles conditions? Cela dépend de votre conscience, Fred. Jusqu'à quel point avez-vous mesuré l'importance de cet acte et envisagé ce que votre position exigerait de vous? Ce que je puis vous dire de moi, c'est que je n'ai jamais été assez strict dans les devoirs de ma profession, et que ma conscience s'en est trouvée mal à l'aise. « Mais il y a encore un autre obstacle, » dit Fred en rougissant. « Je ne vous en ai pas encore parlé, bien que certaines choses aient pu vous le faire deviner. Il y a une personne à laquelle je suis attaché de tout mon cœur. Je l'ai aimée depuis que nous étions tout enfants. « Miss Garth, je suppose, » dit le vicaire, examinant de très près quelques étiquettes. « Oui, je ne me plaindrais plus de rien si seulement elle voulait de moi. » Et je sais que je pourrais alors être un brave garçon. Et vous croyez qu'elle partage votre sentiment? Elle ne veut jamais le dire, et elle m'a fait promettre, il y a assez longtemps déjà, de ne plus lui en parler. Elle désapprouve plus que personne que je me fasse clergéman, je le sais. Mais je ne puis renoncer à elle, et je crois malgré tout qu'elle se soucie de moi. J'ai vu Mrs. Garth hier au soir. Elle m'a dit que Mary était pour le moment au rectoré de Lowick avec Miss Fairbrother. Oui, elle veut bien être assez aimable pour aider ma sœur dans ses occupations. Voudriez-vous y aller? Non, je voulais vous demander une grande faveur. Je suis confus d'abuser ainsi de vous, mais Mary vous écouterait peut-être si vous lui parliez de la chose, je veux dire de mon entrée dans l'église. C'est là une mission délicate, mon cher Fred. Il me faudra sous-entendre votre attachement pour elle, et aborder ce sujet comme vous désirez que je le fasse, ce sera la mettre en demeure de me dire si elle vous rend votre attachement. C'est précisément ce que je voudrais. Je ne saurais à quoi me décider avant de connaître son sentiment. Vous voulez dire que de cela dépendra votre entrée dans l'église? Si Mary ne voulait de moi, ni maintenant ni jamais, il me serait bien indifférent d'échouer dans une carrière ou dans une autre. C'est de l'enfantillage, Fred. Les hommes survivent à leur amour, mais ils ne survivent pas aux conséquences de leur légèreté. Cela n'est pas vrai de mon amour à moi. Je n'ai jamais vécu un instant sans aimer Mary. Si je devais renoncer à elle, ce serait comme de me mettre à marcher sur des jambes de bois. Ne sera-t-elle pas blessée de mon indiscrétion? Non, je suis sûr que non. Elle vous respecte plus que personne, et elle ne vous ferait pas taire par des railleries comme elle le fait avec moi. Naturellement, je n'aurais pu le dire à personne, ni demander à personne de lui parler qu'à vous. Vous êtes pour nous deux un ami unique. Fred s'arrêta un instant, puis il reprit d'un ton de désolation. Elle devrait reconnaître que j'ai travaillé pour passer mon examen. Elle devrait croire que je ferais n'importe quoi pour l'amour d'elle. Après un instant de silence, M. Fairbrother, quittant son travail, tendit la main à Fred. « Très bien, mon garçon, je ferai comme vous désirez. » Ce même jour, M. Fairbrother se rendit au presbytère de Lowick sur le cheval qu'il venait d'acheter. « Décidément, je ne suis qu'une vieille souche, » pensa-t-il. « Les jeunes pousses me mettent de côté. » Il trouva Mary au jardin, cueillant des roses et en effeuillant les pétales sur une feuille de papier. Le soleil était bas et les grands arbres projetaient leurs ombres à travers des chemins gazonneux où Mary circulait sans chapeau ni ombrelle. Elle n'entendit pas M. Fairbrother qui s'avançait sur l'herbe. Elle venait de se baisser pour faire la leçon à son petit terrier noir qui persistait à marcher sur le papier et à flairer les pétales de roses à mesure que Mary les y répandait. Prenant ses pattes de devant dans une main et levant l'index de l'autre, tandis que le chien plissait le front et semblait embarrassé, « Mouche, mouche, je suis honteuse de vous, » dit-elle d'une voix de grave contralto. « Cela ne sied pas à un chien raisonnable. Tout le monde vous prendrait pour un jeune gentleman écervelé. » « Vous êtes sans pitié pour les jeunes gentlemen, Miss Garth, » dit le vicaire s'arrêtant à quelques pas d'elle. Mary tressaillit et rougit. « Cela me réussit toujours avec Mouche, » dit-elle en riant. « Mais pas avec les jeunes gentlemen. » « Oh, avec quelques-uns, je suppose, puisqu'il y en a qui deviennent d'excellents hommes. Je suis heureux que vous m'accordiez cela, parce que, en ce moment même, il y a un jeune gentleman auquel je désire vous intéresser. »« Pas un écervelé, j'espère, » dit Mary, recommençant à cueillir des roses et sentant son cœur battre avec violence. Non, bien que la sagesse ne soit peut-être pas son fort, mais plutôt l'affection et la sincérité. Deux qualités, il est vrai, sur lesquelles, plus qu'on ne le croit d'ordinaire, peut reposer la sagesse. Vous vous doutez bien, d'après cela, j'imagine, de quel jeune homme je veux parler. Oui, je crois que je le sais, dit Mary bravement, son visage devenant plus sérieux et ses mains plus froides. Ce doit être Fred Vincey. Il m'a prié de vous consulter sur son entrée dans l'église. Vous ne trouverez pas, j'espère, que j'ai pris une trop grande liberté en lui promettant de le faire. Au contraire, monsieur Fairbrother, chaque fois que vous avez la moindre chose à me dire, je me sens honoré. Mais avant d'aborder la question, permettez-moi de toucher à un point délicat dont votre père m'a fait la confidence. Soit dit en passant, c'était ce même soir où je m'étais aussi acquitté d'une mission de la part de Fred, qui venait de partir pour le collège. M. Garth m'a conté ce qui s'était passé la nuit de la mort de M. Featherstone. Comment vous aviez refusé de brûler le testament, votre remords de conscience d'avoir été la cause innocente de ce que Fred ait été privé de ses 10 000 livres. Je me suis souvenu de cela, et j'ai entendu dire telle chose qui pourra vous tranquilliser, qui vous prouvera que cette circonstance ne vous impose aucune espèce d'acte expiatoire. M. Fairbrother s'arrêta un instant et regarda Mary. Il ne demandait pas mieux que de faciliter à Fred les moyens de réussir. Mais il ne serait pas mal, pensait-il, d'ôter à Mary certaines idées fausses auxquelles les femmes obéissent parfois, comme de commettre l'erreur d'épouser un homme à titre de compensation. Les joues de Mary commençaient à brûler et elle restait muette. Je veux dire que, de votre conduite, il n'est pas résulté de différence réelle dans le sort de Fred. Il m'a été démontré que le premier testament n'eût pas été légalement valable après la destruction du dernier. Il eût été, soyez-en sûr, contesté et invalidé. Vous pouvez donc avoir l'esprit en repos sur ce point. Merci, monsieur Fairbrother, dit Mary gravement. Je vous suis reconnaissante de vous souvenir de mes sentiments. Je puis donc continuer maintenant. Fred a pris ses degrés, vous le savez. Son chemin étant fait jusque-là, la question est de savoir ce qu'il pourra entreprendre. C'est une question si compliquée pour lui qu'il serait tenté, en fils soumis, de condescendre au désir de son père et d'entrer dans l'Église, bien que vous n'ignoriez pas qu'il y fût auparavant tout à fait opposé. Je l'ai interrogé et je ne vois pas, je l'avoue, d'objection insurmontable à ce qu'il devienne clergéman, au point où en sont les choses. Il pourrait, dit-il, se résigner à faire de son mieux dans cette carrière, mais à une seule condition. Cette condition remplie, je ferai mon possible pour pousser à l'avancement de Fred. Au bout de quelque temps, pas tout de suite bien entendu, il pourrait être près de moi comme des servants, et occupé de telle sorte que son traitement égalerait à peu près celui que je touchais comme vicaire. Mais tout cela, je le répète, dépend d'une condition. Il m'a ouvert son cœur, Miss Garth, en me priant de plaider pour lui. Sa décision dépend absolument de vos sentiments. Mary avait l'air si émue qu'il ajouta après un moment, « Promenons-nous un peu. » Et tout en se promenant, à parler franchement, reprit-il, Fred ne veut se décider pour aucune carrière qui diminuerait les chances qu'il lui reste de vous épouser. Mais avec cette perspective, il fera de son mieux dans n'importe quelle voie que vous approuverez. Il m'est impossible de dire si je l'épouserai jamais, M. Fairbrother. Mais sûrement je ne serai jamais sa femme s'il devient ministre. On ne saurait tenir un langage meilleur et plus généreux que le vôtre. Je ne prétends pas une minute corriger votre opinion. Seulement, j'ai ma façon à moi, un peu jeune et critique, de considérer les choses, dit Mary, retrouvant une étincelle de son enjouement qui ne rendait sa modestie que plus charmante. Je désire pouvoir lui transmettre exactement ce que vous pensez, dit M. Fairbrother. Je ne pourrais aimer un homme ridicule, dit Mary, ne tenant pas à entrer plus avant dans le sujet. Fred a assez de savoir et de bon sens pour devenir, s'il le veut, un homme respectable dans quelque bonne carrière en dehors de l'Église. Mais je ne puis me le représenter prêchant, faisant des sermons, prononçant des bénédictions, priant auprès des malades, sans qu'il m'apparaisse avec quelque chose de grotesque. S'il devient clergéman, ce ne serait que par amour du bon ton, et je trouve qu'il n'y a rien de si méprisable qu'une sotte vanité de ce genre. C'est ce que je me disais toujours quand je voyais M. Krauss, avec sa figure vide et son parapluie correct, prononçant délicatement de petits discours affectés. Quels droits ont donc de tels hommes à représenter le christianisme? Comme si c'était une institution pour élever des idiots dans le bon ton, comme si... Mary s'arrêta. Elle s'était laissée aller, comme si elle s'adressait à Fred au lieu de parler à M. Fairbrother. Les jeunes femmes sont sévères. Elles ne sentent pas la puissance de l'action comme les hommes, quoique je dusse peut-être faire une exception en votre faveur. Mais vous ne mettez pas Fred à un niveau aussi bas. Non, certainement. Il a beaucoup de qualités. Mais clergéman, il n'en aurait pas l'emploi. Ce serait un type d'hypocrisie professionnelle. Alors, votre réponse est tout à fait décisive. Comme pasteur, il n'a aucun espoir. Mary secoua la tête. Mais s'il bravait toutes les difficultés pour gagner sa vie de quelque autre manière, lui donneriez-vous le soutien de l'espoir? Pourra-t-il compter vous obtenir? Il n'est pas nécessaire, je trouve, de lui répéter une fois de plus ce que je lui ai déjà dit, répondit Mary, comme un peu blessée. J'entends qu'il n'a nul besoin de poser ces questions jusqu'à ce qu'il ait donné des preuves d'une sage et digne conduite, au lieu de dire qu'il en serait capable. M. Fairbrother garda le silence pendant une ou deux minutes, puis, tandis qu'il s'arrêtait à l'ombre d'un érable, au tournant d'une allée envahie par l'herbe, il reprit « Je comprends que vous résistiez à toute tentative pour vous lier par une promesse. Mais de deux choses l'une, ou votre sentiment pour Fred Vincey vous empêche de former tout autre attachement, et alors il peut compter que vous ne vous marierez pas jusqu'à ce qu'il ait mérité votre main, ou il n'en est rien, et alors il ne faut plus lui donner le moindre encouragement. Pardonnez-moi, Mary, c'est ainsi que je vous appelais autrefois, vous savez, quand vous étiez mon élève. Mais lorsque de l'état des affections d'une femme dépend le bonheur d'une autre vie, de plus d'une autre vie, je trouve que la conduite la plus noble de sa part serait d'être parfaitement droite et franche. » Mary, à son tour, demeura silencieuse, ne s'étonnant pas du langage de M. Fairbrother, mais plutôt de sa voix qui exprimait une émotion grave et contenue. Quand l'idée étrange lui traversa l'esprit, que peut-être les paroles du vicaire se rapportaient à lui-même, elle y resta incrédule et rougit d'en avoir eu la pensée. Elle n'avait jamais songé que nul homme pût l'aimer, excepté Fred, qui l'avait épousée avec un vieil anneau d'ombrelle, à l'âge où elle portait encore des chaussettes et des petits souliers à rubans. Encore moins avait-elle pensé que M. Fairbrother pût prendre intérêt à elle. M. Fairbrother, l'homme le plus savant du cercle étroit où elle vivait. Elle n'eut que le temps de sentir combien tout cela était vague et peut-être illusoire. Mais une chose était claire et résolue dans son esprit. Sa réponse, « Puisque vous le considérez comme mon devoir, M. Fairbrother, je vous dirai que j'ai pour Fred un sentiment trop fort pour renoncer à lui en faveur de tout autre. Je ne serais jamais tout à fait heureuse si je pensais qu'il fût malheureux de m'avoir perdue. Je lui suis reconnaissante de m'aimer toujours plus que personne et de tant s'inquiéter de ce qui me fait de la peine, depuis le temps où nous étions tout enfants. Et cela a pris en moi une racine profonde. Je ne puis me figurer un sentiment nouveau venant affaiblir celui-là dans mon cœur. J'aimerais par-dessus tout le voir digne du respect de tous. Mais dites-lui, s'il vous plaît, que jusque-là, je ne puis lui promettre de l'épouser. Je blesserai et j'affligerai trop mon père et ma mère. Il est donc libre de faire un autre choix. » Eh bien, voilà ma mission remplie, dit M. Fairbrother, tendant la main à Mary. Je vais m'en retourner tout de suite à Middlemarch. En donnant à Fred cet espoir, nous le ferons entrer d'une manière ou d'une autre dans la bonne voie. Et j'espère vivre assez pour vous unir. Dieu vous bénisse. Oh, restez, je vous en prie. Permettez-moi de vous offrir un peu de thé, dit Mary. Ses yeux se remplirent de larmes, quelque chose d'indéfinissable, quelque chose comme une douleur résolument étouffée, dans les manières de M. Fairbrother, fit qu'elle se sentit tout à coup malheureuse, comme elle l'avait été un jour où elle avait vu les mains de son père trembler dans un moment d'émotion. « Non, ma chère, non, il faut que je parte. » Quelques minutes plus tard, le vicaire remontait sur son cheval. Il avait magnanimement accompli un devoir beaucoup plus dur que de renoncer au whist, ou même de rédiger des méditations de repentance.